Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Nous prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans ces explications, à partir des Pères de l'Église, que je vous donne, nous en sommes maintenant au chapitre 27 de Saint Matthieu. Donc, Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 27, verset 39. Nous sommes à la fin des grands textes sur la passion de notre Seigneur dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Voilà l'endroit où nous en sommes. Sur le polycopier, nous en sommes à la page 27. Et les passants le blasphémaient notre Seigneur, branlant la tête et disant: allez, allons, vous qui détruisez le temple de Dieu et qui le rebâtissez en 3 jours, sauvez-vous vous-même. Et si vous êtes le Fils de Dieu, descendez de la croix. Les princes et prêtres se moquaient aussi de lui, avec les scribes et les anciens, et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Et les voleurs qui avaient été crucifiés avec lui lui adressèrent les mêmes outrages. Alors, nous voyons d'abord que les évangiles se complètent. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a certains détails qui sont dans certains évangiles et pas dans d'autres. Il y a en général un grand parallélisme qui s'établit entre les synoptiques, c'est-à-dire Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Jean. Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc. L'évangile selon Saint Jean est un évangile un peu à part qui donne beaucoup de choses spécifiques que les autres évangiles ne donnent pas. Donc il faut, pour juger l'Écriture sainte avec l'Esprit de l'Église, faire attention justement à tenir compte de ces compléments que donne chaque évangile. Par exemple, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, ici que nous commentons, il n'y a rien sur la conversion de Saint Dismas, le bon baron. Il dit simplement: les voleurs qui avaient été crucifiés avec lui, donc Dismas et Gestas, Saint Dismas et Gestas, lui adressèrent les mêmes outrages. Alors, il ne faut pas qu'on dise comme d'autres personnes parfois qui vont dire: puisque Saint Matthieu ne parle pas de la conversion de Saint Dismas, c'est que cette conversion n'est pas certaine, parce que si elle avait été certaine, Saint Matthieu en aurait parlé. Non, tout simplement parce que les évangiles se complètent les uns les autres. Donc il y a certaines choses qui vont être dites par exemple par Saint Jean qui ne seront pas dites par les autres évangélistes, et d'autre part, il va y avoir une certaine complémentarité entre tous les évangiles. Donc il faut lire tous les évangiles pour avoir une vue complète de l'histoire de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne soyez pas surpris si, encore une fois, certains évangélistes disent certaines choses qui ne sont pas expliquées dans d'autres. Alors ici, on assiste à tous les blasphèmes des juifs, et donnerait cher pour que ces parties-là n'aient pas été écrites sur le papier. Pourtant, elles l'ont été, hein, et c'est vraiment, vraiment passé comme ça. Les juifs le blasphémaient parce qu'ils marchaient en dehors de la foi. Ils, eux, les juifs, marchaient en dehors de leur voie, de la voie qu'ils auraient dû suivre, et qu'ils ne voulaient pas entrer dans le véritable chemin des Écritures. Ils branlaient la tête parce que leurs pieds chancelaient depuis longtemps et ne s'appuyaient pas plus sur la pierre. La pierre, c'est le Christ. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait donné aux Juifs toutes les preuves de sa divinité, entre autres parce qu'il avait fait de nombreux miracles devant eux. Il avait aussi rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, mais ça n'a pas suffi. Alors attention, il faut éviter de tomber dans un piège classique qu'on entend, je l'ai déjà souvent dit, trop souvent dans les milieux de la tradition. Il ne faut pas non plus ne voir que le crime des Juifs. C'est vrai que les Juifs sont coupables d'un crime de déicide, mais n'oublions pas que nous faisons exactement la même chose à chaque fois que nous commettons un péché mortel. À chaque fois qu'on commet un péché mortel, qu'on préfère sa volonté propre, qu'on suit sa volonté propre au lieu de suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, ben nous aussi, nous blasphémons notre Seigneur Jésus-Christ, nous branlons la tête contre lui, nous moquons de lui, nous prétendons l'adorer, mais en même temps on le rejette. Et je dirais même qu'on peut, je crois, aller même plus loin. Les Juifs, la plupart d'entre eux au moins, pas tous, les Juifs n'avaient pas tous compris, beaucoup n'avaient pas compris qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup n'avaient pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Les apôtres avaient compris ça. Tous ceux qui vont se convertir et joindre la foi catholique, commencer par la très sainte Vierge Marie et tous ceux qui vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ceux-là avaient bien compris la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas les autres. Tandis que nous, catholiques, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. En plus de ça, nous avons beaucoup d'aide que n'avaient pas tous ceux qui étaient autour de notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'écoutaient en son temps. Nous avons l'aide d'une église constituée, nous avons l'aide des sacrements, sacrement de la pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, qui n'était pas encore vraiment beaucoup développé à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne va instituer ces sacrements qu'au soir de sa passion, jeudi saint en fin de compte. Et donc nous avons encore moins d'excuses, et nous sommes à mon avis beaucoup plus coupables que les Juifs. Certes, les Juifs sont coupables de déicide, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que je commets une faute grave, d'un certain côté, moi aussi je suis coupable d'un déicide. Et n'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je sais que ça fait grincer certaines dents, mais tant pis, que Dieu souffre beaucoup plus du péché de déicide commis par un de ses amis que du péché de déicide commis par les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les Juifs infidèles renie notre Seigneur Jésus-Christ, je dirais c'est de bonne guerre, mais qu'un catholique ami de notre Seigneur Jésus-Christ baptisé dans l'église catholique renie notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien plus grave. Alors attention. Donc les Juifs ajoutent et nous croirons en lui. C'est le verset 42. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, nous croirons en lui. Donc ils ajoutent, et nous croirons en lui, promesse pleine de mensonges, disent les pères, car qui exige plus de puissance de descendre vivant de la croix ou de s'arracher au bras de la mort dans le tombeau? Or il est ressuscité, vous n'avez pas cru en lui, donc s'il descendait de la croix, vous ne croiriez pas davantage. Ce sont des excuses. Beaucoup de catholiques modernes utilisent ce même genre d'excuses. Ah, mais si je voyais les mêmes miracles auxquels qui ont été présentés aux gens au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, je me convertirais. Attention, même si les miracles avaient lieu aujourd'hui sous notre nez, dans bien des cas, nous ne nous convertirions pas plus que les autres, justement à cause de notre mauvaise volonté. Et la mauvaise volonté est très très fréquente aujourd'hui. Regardez le pays de France. Qu'est-ce qui reste de la France catholique? France, fille aînée de l'Église. La France qui a reçu la foi catholique dès le 1er siècle. N'oublions pas que la famille de Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Sainte-Marie-Madeleine, et tous ceux qui étaient dans la barque qui a traversé la Méditerranée miraculeusement pour atterrir au Sainte-Marie de la Mer, les habitants du sud de la France, de la région de Marseille entre autres, ont déjà eu la prédication de l'Évangile dès le milieu du 1er siècle. C'est énorme. Dans le nord de la France, déjà, vous aviez le disciple de Saint Paul, Saint Denis, l'Aéropagite, qui va venir prêcher l'Évangile à Paris. Vous avez tous ces saints qui ont évangélisé la France depuis tout à fait le début. Il y a quelques jours, nous vous parlions de, je vous parlais, je crois, de Sainte Véronique et de Saint Zachée qui ont évangélisé l'Évangile, qui sont des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. La France a donc reçu la vérité catholique tout à fait au début et a eu, on peut dire, des siècles et des siècles de catholicisme. La France est restée, on peut dire, catholique jusqu'en 1789. C'est la Révolution qui a aveuglé la plupart des Français et qui a commencé à perdre la foi avec l'arrivée de la Révolution. Bon, malheureusement, ça avait même commencé avant, puisque l'esprit révolutionnaire était déjà en gestation avec les principes de Martin Luther en 1517, les principes de la franc-maçonnerie en 1717. Et regardez qu'est-ce qui reste de la France actuellement. La France est devenue une gigantesque poubelle. Une gigantesque poubelle. La France est en train, enfin pour moi, je sais que je vais peut-être choquer certaines personnes en vous disant ça, pour moi la France est devenue un pays du tiers-monde. J'ai été missionnaire dans les pays du tiers-monde. Bon, ben, vous savez, la France n'est pas plus brillante actuellement. Elle est en train vraiment de... La France est devenue un cadavre ambulant, littéralement. Il y a encore quelques catholiques qui traînent à droite à gauche, mais une extrême minorité. Eh bien, nous avons beaucoup plus de responsabilités, précisément parce que nous venons de... Nous avons derrière nous une histoire de 17 siècles de catholicisme. Prenez par exemple, comparez ça avec des gens qui n'ont jamais rien eu, et des pays qui n'ont jamais eu la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, quand vous comparez ce que nous avons eu en France avec, par exemple, un pays je ne sais pas moi, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y a quelques jours, j'ai fait escale en allant donner une mission à l'île de la Réunion. J'ai fait escale à l'île Maurice, bon, encore des îles qui ont été très éloignées pendant longtemps du catholicisme. Eh bien, je pense que la France a beaucoup plus de responsabilités, justement, parce qu'elle a eu beaucoup plus, elle a plus reçu. Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui a reçu 5 talents doit donner beaucoup plus que celui qui n'en a reçu que 2 ou qui n'en a reçu qu'un seul. Alors, il importe pour nous d'utiliser les prédications de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous rappeler nos responsabilités. Nous avons une responsabilité de sainteté qui est bien plus grande chez nous. Et ne nous contentons pas de dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, mais bon, c'est pas de notre faute, la foi a disparu presque partout. Soyons déjà heureux d'avoir encore un peu la foi, de faire encore un peu quelque chose. Monsieur l'abbé, moi je prêche, je célèbre, je vais encore à la messe traditionnelle le dimanche, et puis je dis encore le chapelet de temps en temps en famille. Bon, alors, n'en demandez pas trop, monsieur l'abbé. Et attendez, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande beaucoup plus que ça. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande la sainteté. Voilà ce qu'il demande. Les catholiques doivent être l'élite du monde. Et les catholiques de tradition doivent être l'élite des catholiques. Nous avons su beaucoup plus. Je comprends parfaitement que quelqu'un qui est membre de l'église de Vatican II est tout envoyé promener, c'est logique. Mais nous, dans quelle mesure nous avons, nous aussi, tout laissé tomber alors que nous sommes catholiques de tradition, que nous allons à la messe traditionnelle le dimanche, et nous continuons de pécher, nous continuons d'offenser le bon Dieu. Quel désastre! Je parle pour tout le monde, y compris pour moi. Donc, ces deux voleurs, disent les pères de l'Église en bas de la page 27, représentent les deux peuples, juifs et gentils, qui tous deux ont d'abord blasphémé le Seigneur. Mais ensuite, l'un d'eux, effrayé par la multitude des miracles dont il était témoin, fit pénitence, et jusqu'à ce jour, il reproche aux Juifs leur blasphème. Donc le bon larron, Saint Dismas, celui qui a été sauvé, est encore le symbole de ceux qui, après une vie pleine d'iniquité, ont embrassé la foi entre Seigneur Jésus-Christ. Il faut méditer souvent la vie du bon larron. Celui-là, il s'est rattrapé aux branches à la dernière seconde de sa vie, quelques minutes avant de mourir, pour bien nous faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir. Si on ne s'est pas converti avant, autant se convertir avant, au dernier moment, plutôt que de ne pas se convertir du tout. Oui, une note intéressante en bas de la page 27. Il est dit dans le Deutéronome que toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. On pourrait croire que Dieu a laissé l'œuvre du salut des hommes non terminée avec la passion. Mais le Christ est allé jusqu'au bout pour nous obliger à être persévérants. C'est pourquoi les prédicateurs doivent exhorter les faibles à ne pas abandonner leur poste. Nous sommes responsables, coupables en France d'un abandon de poste. La France a abandonné son poste de fille aînée de l'Église. Elle est sans doute encore fille aînée de l'Église, mais elle a abandonné son poste. Hein. Alors, est-ce que j'ai abandonné le mien? Est-ce que je suis moi aussi responsable d'un abandon de poste? Est-ce que le navire part dans tous les sens parce que justement je ne fais plus mon travail? Certes, le grand responsable, c'est le capitaine du navire. Quand le navire va à la perdition, c'est d'abord le capitaine qui est responsable. Mais si les lieutenants ne remplissent pas leurs responsabilités, leurs différents postes qu'ils occupent, aux différents postes qu'ils occupent dans le navire, comment voulez-vous que le commandant du navire puisse faire quelque chose? Et donc, moi qui suis, en tant que prêtre, je suis l'équivalent d'un lieutenant, si vous voulez, dans un bateau. Bon, les matelots sont représentés par les fidèles. Les fidèles représentent les matelots du navire. Eh bien, il faut que chacun fasse son travail. Si le petit matelot qui est en bas de l'échelle ne fait pas son travail dans les coursives du navire, pour hisser les voiles ou les descendre quand il le faut, eh bien, le navire va à la perdition. Alors, demandons justement, en méditant sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons ces grâces de conversion dont nous avons tous besoin. Nous serons sauvés par la sainteté personnelle. Commencez par la mienne. J'en ai bien besoin, moi aussi. Ce que je vous dis, ne prenez pas ça simplement pour vous. Il ne faut pas croire que je vous dis toutes ces choses et que moi, je me prends pour un saint. Pas du tout. J'ai besoin, moi aussi, de me convertir. Travail de notre conversion, il faut le recommencer tous les matins. Il ne faut pas croire, bah, ça y est, je suis un saint, je n'ai plus rien à faire. Non. Que celui qui croit être debout et qui prenne garde de ne pas tomber, nous dit saint Paul. Donc, les pécheurs parlent contre le Christ. C'est ce que je viens de vous expliquer en haut de la page 28. Les pécheurs, c'est le sens tropologique. Tropologique, c'est le sens moral, donc il s'adresse à nous directement. Les pécheurs parlent contre le Christ, disent les pères, quand ils le déshonorent par leur péché. L'ingratitude l'attriste encore plus que les peines intérieures et extérieures. Donc notre Seigneur Jésus-Christ souffre plus de la trahison de ses amis que des calomnies, des blasphèmes de ses ennemis. Et pour continuer dans cette même ligne, je pense que notre Seigneur Jésus-Christ souffre encore plus de la trahison des clercs, toute la trahison de ses prêtres, que la trahison des fidèles, des simples fidèles. Notre Seigneur Jésus-Christ souffre encore plus de la trahison d'un évêque, de la trahison d'un simple prêtre. Essayons de comprendre ces choses pour nous exhorter justement à la sainteté. Donc les pères grecs, ainsi que saint Hilaire, qui est un père latin, pensent qu'au début les deux larrons blasphèment le Christ, mais que l'un d'entre eux se repentit. Mais les pères latins pensent que saint Dismas, le bon larron, a défendu le Seigneur depuis le début. Le mot par synecdoque, le mot valeur est utilisé au pluriel, alors que l'expression, le mot voleur, pardon, est utilisé au pluriel, alors que l'expression signifie un des voleurs. On voit la même chose en Saint-Luc, où les mots soldats, au pluriel, signifient en mot l'un d'entre eux. Saint-Matthieu utilise ainsi le mot voleur au pluriel, non pas tant pour désigner ces deux hommes, mais pour parler de la condition de ceux qui insultaient le Christ. Il lui est donc signifié, tous le faisaient, même le voleur à son côté. Alors, si saint Dismas s'est converti, est devenu saint Dismas, eh bien, tout le monde peut se convertir. Sans saint Dismas, il avait fait des vertes, il n'est pas mûr. Eh bien, il s'est converti avec la grâce du bon Dieu. Simplement, touché par la grâce, je l'ai déjà expliqué hier, je crois, au dernier cours, et touché par la grâce, saint Dismas a simplement dit à notre Seigneur, « Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. » Et par ce simple acte qui couvre à la fois un acte de foi, d'espérance et de charité, les trois choses à la fois, trois vertus théologales à la fois, eh bien, il a ouvert le ciel pour lui. Aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. Pas demain, aujourd'hui. Alors, méditons Saint Dismas, la conversion de Saint Dismas, qui est le symbole de la nôtre. Nous avançons versets 45 à 50 du chapitre 27 de Saint Matthieu. Or, depuis la sixième heure, jusqu'à la 9e, c'est midi à 3 heures de l'après-midi, Rappelez-vous que les heures romaines commençaient à partir de 6 heures le matin. Donc la première heure, c'est 6 heures. La sixième heure, c'est 6 plus 6, ça fait 12 heures, donc midi. Et 9e heure, 3 heures plus tard, 3 heures de l'après-midi. Donc depuis la midi jusqu'à l'heure de 15 heures, 13 heures, dans les 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Quelqu'un de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disait, « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux, accourant, prit une éponge, la remplit de vinaigre, et l'ayant attaché à un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres disaient, « Laissons, voyons si Eli viendra le délivrer. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Donc là, il est intéressant de voir que notre Seigneur va prononcer du haut de la croix non seulement le premier verset du psaume 21, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» mais tout le psaume 21. Le psaume 21 est un psaume très long. C'est le psaume que nous disons à l'office de prime le vendredi matin. Où j'enregistre cette conférence, c'était un vendredi, donc ce matin, j'ai dit le psaume 21 avec l'office de prime. Et ce psaume 21 commence par ces mots, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et ce psaume avait été écrit par le roi David à peu près 1000 ans avant la crucifixion. Or, tous les juifs adultes connaissaient par cœur les 150 psaumes de David. Ils les apprenaient à l'école. Et donc, ils les connaissaient tous par cœur. Et tous savaient que le psaume numéro 21, qui commence par ces mots, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani en araméen. Tout le monde savait que ce psaume était le psaume qui annonçait la mort du Messie. Il y a des passages incroyables dans ce psaume. Entre autres, il est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Et les Juifs qui entendaient notre Seigneur Jésus-Christ prononcer cette phrase au sujet de lui-même, voyaient notre Seigneur crucifié. Même des détails, comme par exemple, je crois l'avoir déjà expliqué au dernier cours, mais comme par exemple les soldats qui tirent au sort sa tunique, eh bien c'est inscrit dans le marbre, littéralement, par le psaume 21. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, récite complètement le psaume 21, non pas la première phrase, mais la tradition dit tout le psaume, pour bien dire aux Juifs, vous connaissez ce psaume, vous savez très bien que le roi David l'a écrit il y a 1000 ans, annonçant les souffrances du Messie. Et je récite ce psaume maintenant pour bien vous faire comprendre une chose, je suis ce Messie annoncé par le roi David il y a 1000 ans. Donc convertissez-vous. Malheureusement, la plupart des Juifs ne vont pas se convertir. Mais on le voit, c'est une belle chose dans le film de Mel Gibson sur la Passion. On entend notre Seigneur qui est crucifié, donc il commence le psaume « Eli, Eli, lama sabachthani ». Puis on entend, la voix se fait de plus en plus sourde, disparaît, et on entend que notre Seigneur du sommet de la croix continue le psaume. Il n'y a pas, je vous l'ai déjà dit, je crois que Mel Gibson est traditionnaliste, célébracantiste, même s'il ne vit plus comme quelqu'un qui l'est malheureusement, et que son conseiller spirituel pendant le film de la Passion, alors qu'il faisait le film de la Passion, c'était le père de Somerville, qui est un prêtre canadien, qui est je crois mort maintenant, et qui disait la messe traditionnelle tous les matins. Alors, pourquoi y a-t-il eu ces manifestations extérieures des choses matérielles? Donc, il va y avoir des ténèbres sur toute la terre, il va y avoir des rochers qui vont se fendre, la terre qui va trembler, les sépulcres qui s'ouvrent, beaucoup de corps des saints qui étaient endormis, qui ressuscitent, etc. Pourquoi tous ces miracles? Eh bien, tout simplement, c'est une leçon que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, en disant, même les créatures matérielles, même les créatures qui n'ont pas de raison, le soleil n'a pas de raison, la lune n'a pas de raison, les étoiles n'ont pas de raison, les pierres n'ont pas de raison, les sépulcres en tant que tels n'ont pas de raison, eh bien, ils réagissent à la mort de notre Seigneur. Et vous, vous ne réagissez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encore plus dur que la pierre.
que j'ai un cœur qui est devenu un sépulcre blanchi. Une race de vipère et sépulcre blanchi. C'est ce que je suis devenu quand je refuse de battre mon mea culpa devant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La créature ne pouvait supporter la vue des outrages faits au Créateur. Aussi le soleil retira-t-il ses rayons pour ne pas être témoin des forfaits de ses impies. Depuis la sixième heure, les ténèbres couvrirent donc toute la terre. Vous savez que cette éclipse miraculeuse a été vue très loin, a été vue jusqu'en Grèce, entre autres. Et en Grèce, ça a provoqué la conversion de Saint-Denis. Saint-Denis, l'Aréopagite, a commencé à se poser des questions justement en voyant cette éclipse et a compris que la machine du monde s'enrayait parce que le créateur du monde, justement, était persécuté. C'était le début de sa conversion. La terre fut donc couverte, fils de père, d'épaisses ténèbres depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Car nous lisons que deux espèces différentes d'êtres ont été créées le sixième jour, les animaux avant la sixième heure et l'homme à cette heure-là même. Il convenait donc que celui qui mourait pour le salut du genre humain fût attaché sur la croix à la sixième heure et que par suite les ténèbres se répandissent sur toute la terre de la sixième à la neuvième heure. Donc, cela nous fait comprendre que les créatures matérielles qui nous entourent, eh bien, sont aussi des créatures de Dieu. Attention, une fleur est une créature de Dieu. Un rocher est une créature de Dieu. Et en principe, justement, la beauté des créations, la création de Dieu, doit nous aider à remonter des créatures vers le Créateur. C'est ça le principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans, il n'y a pas de fumée sans feu. Principe de causalité, eh bien, il n'y a pas d'effet sans cause. S'il y a une cause, il y a des effets. Donc, puisque je constate les effets, je dois être suffisamment intelligent, avec l'intelligence que le bon Dieu m'a donnée, pour remonter des effets aux causes. C'est un crime intellectuel gravissime de refuser d'utiliser son intelligence pour remonter des effets à la cause. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'intelligence précisément pour ça, pour qu'on puisse remonter, pour qu'on apprenne à remonter des effets à la cause. Ici une petite note des pères de l'Église en bas de la page 28 sur le polycopié. Sous Moïse encore, les ténèbres couvrirent pendant 3 jours toute la terre d'Égypte, tandis que tous les enfants d'Israël étaient dans la plus vive lumière. C'est ainsi que pendant la passion de Jésus-Christ, les ténèbres se répandirent pendant 3 heures sur toute la Judée, parce qu'elle était privée en punition de ses péchés, de la lumière de Dieu le Père et de la splendeur du Christ, de la clarté de l'Esprit Saint, tandis que la lumière éclairait tout le reste de la terre, figure de cette lumière qui éclaire dans tous les lieux l'Église de Dieu en Jésus-Christ. Donc l'Église, c'est notre l'Église, c'est le symbole de la lumière du soleil qui éclaire le monde. Bon, est-ce que, ça c'est une opinion d'un père de l'Église, je viens de vous le dire, et apparemment, il semble que cette éclipse du soleil miraculeuse a été vue également dans d'autres pays. Bon, il n'y a sans doute pas eu les mêmes ténèbres, ici on parle de ténèbres, donc c'est plus qu'une éclipse, il y a eu des ténèbres sur toute la Terre, en plus de ça, une éclipse ne dure pas 3 heures. Et si les ténèbres ont duré 3 heures, de midi à 3 heures de l'après-midi, imaginez que la lumière du soleil disparaisse pendant 3 heures. Nous serions complètement paniqués. La Terre deviendrait un glaçon, littéralement, si le soleil disparaissait. Imaginez la panique si le soleil disparaissait pendant 3 heures. Peut-être que ça ferait réfléchir certaines personnes. Donc celui qui alimente les fontaines est abreuvé de vinaigre. Celui qui nous donne le miel est nourri de fiel. La miséricorde est flagellée. Celui qui accorde le pardon est condamné. La majesté est insultée. La vertu tournée en dérision. Celui qui répond, les pluies fécondantes et couvert de crachats. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui veulent méditer un peu plus sur ces textes magnifiques de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de relire tous ces textes magnifiques qu'on trouve au Vendredi Saint, notamment ce qu'on appelle les impropères. Les impropères sont les reproches que notre Seigneur Jésus-Christ fait à son peuple, au peuple juif, mais aussi à chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'Église catholique a repris ces impropères dans sa liturgie du Vendredi Saint. Et ici, on parle justement de ce vinaigre. Voilà ce qu'il est dit, hein, au verset 48. Il appelle Élie. Il a entendu notre Seigneur Jésus-Christ commencer le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Élie, Élie. Eh bien, il accourt, il prend une éponge, il la remplit de vinaigre. Elie a entaché un roseau, le donné à boire. Mais il est dit dans un autre évangile que notre Seigneur Jésus-Christ ne but pas ce vinaigre. Le vinaigre est un vin qui s'est aigri, disent les pères, ou par sa mauvaise qualité, ou par le mauvais état du vase qui le contient, ou par négligence. Donc le vin représente l'honneur de l'immortalité de la vertu. Lorsque le vin se fut aigri en Adam, le Seigneur en prit et en fut abreuvé par les nations. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a été abreuvé de vinaigre. Nous donnons du vinaigre à notre Seigneur Jésus-Christ, on a dû donner du bon vin pour le fortifier, nous lui donnons du vinaigre aigri, pourri, justement à chaque fois que nous péchons. À chaque fois que nous péchons, nous transformons le vin en vinaigre. Bien, nous transformons les dons gratuits que nous a donnés notre Seigneur Jésus-Christ en poubelle, en horreur. Ce vin est présenté au moyen d'une éponge placée au bout d'un bâton. Certains pensent qu'un soldat a dû utiliser sa lance pour présenter cette image, pour présenter au Seigneur l'éponge imbibée de vinaigre. C'est-à-dire que le Sauveur reçut du corps des nations les faiblesses qui avaient corrompu en nous le principe de l'immortalité, qu'il les fit, pour ainsi dire, passer en lui-même pour communiquer l'immortalité à tout ce qui avait été altéré et corrompu. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté, si vous voulez, de s'abaisser à la corruption des choses, justement pour nous montrer à quel point il nous aimait. Il nous aimait à un tel degré qu'il a voulu, justement, passer par toutes ces humiliations, pour bien nous faire comprendre pourquoi il mourait pour nous sur la croix. Nous en sommes maintenant à la page 29. Page 29. Continuons ces commentaires des pères. Les Juifs eux-mêmes étaient ce vinaigre. Saint-Rémy qui parle. Les Juifs eux-mêmes étaient ce vinaigre, eux qui étaient comme un vin dégénéré, des patriarches et des prophètes, qui avaient des cœurs creusés par la fraude, comme l'est une éponge par les cavités profondes et tortueuses qu'elle renferme. Donc cette éponge remplie imbibée de vinaigre représente ceux qui trahissent notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais la même chose à chaque fois que je commets un péché grave. Encore une fois, n'oublions jamais la même règle qui s'applique à chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Je suis un grand échanson, je suis supposé présenter à notre Seigneur Jésus-Christ un vin de haute qualité. Notre Seigneur Jésus-Christ me tend son verre pour que je le remplisse d'un vin de grande qualité. Et au lieu de mettre un vin de grande qualité, de haute qualité dans le verre que me présente notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais? Je remplis ce verre d'une piquette infâme. Même plus qu'une piquette infâme, je remplis ce verre de vinaigre. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos âmes. Il aurait le droit, dans nos âmes, de trouver un vin extraordinaire. Le vin, n'oubliez pas, dans l'esprit de l'Église, le vin est aussi le symbole de la grâce. La grâce qui guérit. Rappelez-vous le bon samaritain qui verse sur les plaies de l'homme qui est tombé entre les mains de brigands qui descendaient de Jérusalem à Jéricho. Mais qu'est-ce que va faire le bon samaritain? Il va verser sur les plaies de l'homme l'huile et le vin. Eh bien, ce vin représente le travail de la grâce. Le vin qui réjouit le cœur des hommes, c'est la grâce qui rend en quelque temps toute sa beauté à l'âme. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, quand il regarde dans mon âme, il devrait trouver dans mon âme un nectar extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il trouve? Si je ne suis pas fidèle, au lieu de trouver un nectar extraordinaire, il trouve un infâme breuvage, un vinaigre. Vous avez déjà essayé de boire du vinaigre, vous allez vite le recracher, c'est infâme. Eh bien, c'est un peu notre histoire. Un peu notre histoire. Alors, le roseau au bout duquel est fixée l'éponge imbibée de vinaigre, le roseau figure la Sainte Écriture, qui recevait ainsi son accomplissement. Peut-être aussi peut-on dire que tous ceux qui ont la science de la doctrine ecclésiastique, mais dont la vie est mauvaise, donnent à boire à Jésus-Christ du vin mélangé de fiel. C'est la même image que je viens de vous expliquer. Le vin représente la grâce, le vinaigre représente la corruption de la grâce. Donc un prêtre qui au lieu d'enseigner notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne l'homme, présente aux fidèles, au lieu de présenter du vin, présente du vinaigre. Le vinaigre est imbuvable. Le vinaigre est une piquette infâme. Eh bien, malheur justement à ceux qui sont là pour abreuver les fidèles de la vérité et qui, au lieu de leur présenter la vérité, leur présentent une doctrine corrompue. Donc le vinaigre, qui est une corruption du vin, représente la corruption de la doctrine ecclésiastique. Le premier homme, Adam, avait au jugement de Dieu encouru la mort par son péché, le péché originel. Il l'avait transmis à ses descendants. Le second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, vint du ciel, pur de tout péché, pour condamner la mort qui, n'ayant reçu de droit que sur les coupables, avait osé s'attaquer à la source même de toute sainteté. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, voyez, va accepter d'avaler la lie de l'humanité. La lie de l'humanité, ce sont nos péchés. Il va les prendre sur ses épaules sacrées, pour justement, en quelque sorte, nous ressusciter, faire de nous des hommes nouveaux. Quoique Jésus-Christ soit mort comme homme et que son âme sainte ait été séparée de son corps, exempt de toute souillure, cependant la divinité est restée inséparablement unie à l'une et à l'autre, c'est-à-dire à l'âme et au corps, et l'unité de personne n'a souffert aucune division. Donc là, c'est un point de doctrine que j'ai déjà expliqué souvent, donc j'y reviens pas dans toutes ces explications. Donc n'oubliez pas que le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était vivant, étaient unis, parce qu'il est justement homme à part entière, donc il a un corps et une âme, mais que ce corps et cette âme étaient unis dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ à la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que personne, est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais il est en même temps homme. Donc il a une double nature, une nature humaine, une nature divine. Il est parfaitement homme, il a la nature humaine, il est parfaitement Dieu, il a la nature divine. Et donc, même après la séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, séparation qui va arriver au moment précis de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, eh bien le corps, qui va être séparé de l'âme, puisque le corps va être placé dans le tombeau pendant 3 jours, 36 heures, depuis le vendredi saint jusqu'au matin de Pâques, eh bien ce corps sera toujours uni à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'âme, séparée du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois il est vraiment mort, est aussi unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va descendre aux enfers, le lieu d'attente de tous les justes de l'Ancien Testament, et c'est à cause de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ unie à son âme qu'il va pouvoir transformer ce lieu en paradis. Donc le corps et l'âme du Christ ont eu, dès le commencement, leur existence dans la personne du Verbe, et l'ont conservé jusque dans la mort, car ni le corps ni l'âme n'ont eu d'autre personnalité que celle du Verbe. Il y a une personne en notre Seigneur Jésus-Christ, pas deux. C'est-à-dire qu'il y a eu des hérétiques qui ont prétendu qu'il y avait une double personne en notre Seigneur Jésus-Christ. Le nestorianisme, par exemple, c'est un petit peu ça. Eh bien non, il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur Jésus-Christ. En voyant les phénomènes de la nature, au moment de la mort du Seigneur, surtout l'éclipse inhabituelle, Denis l'Aréopagite s'exclama, je vous l'ai déjà cité, ici c'est la citation exacte, « Où le Dieu de la nature souffre, où la nature du monde se détruit. » Une autre traduction dit « Où le Dieu de la nature souffre, où la machine du monde se détruit. » C'était là bien une preuve de la divinité du Christ, car quand le soleil, l'œil du monde, s'obscurcit et disparut, il était signifié que son Dieu et Seigneur, le soleil de justice, mourait sur la croix, et que le soleil et la lune le pleuraient dans son agonie. Donc, si l'image est la suivante, puisque le soleil et la lune pleurent en quelque sorte la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, au moins en manifestant leur douleur par cette obscurité qui va envahir le monde pendant 3 heures, de midi à 3 heures de l'après-midi, encore plus notre cœur de catholique devrait pleurer de commisération, de compassion devant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, c'est la remarque un peu des pères que les tombeaux, les pierres, le soleil et la lune marquent leur douleur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous, on bouge pas. Notre cœur reste un cœur de pierre. Alors qu'au contraire, une bonne compréhension de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ devrait changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Alors, symboliquement, au milieu de la page 29, cette obscurité représente l'aveuglement des Juifs. L'obscurité, ça représente la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. L'aveuglement des Juifs, lequel est toujours sur eux. Mais pour nous, la nuit s'est transformée en jour. Car c'est la propriété de la divinité de briller dans l'obscurité, alors que l'impiété, même dans la lumière, est toujours dans le noir. Hein? Donc les gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou sont en fait des aveugles. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Et ensemble, ils tomberont dans la fosse dont nous avertit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si je vis dans le péché mortel, je suis un aveugle. Le pire, c'est que non seulement je suis un aveugle, mais je prétends que je suis capable de voir et de me diriger. Or, un aveugle est incapable de se diriger. Donc rappelez-vous la formule, médecin, soigne-toi toi-même. Avant de vouloir éclairer, illuminer les autres et diriger les autres, commençons par ouvrir les yeux, être sûr que nous ne sommes pas atteints de cécité spirituelle, de paresse spirituelle, de tiédeur spirituelle. Donc cette obscurité qui envahit le monde représente non seulement le péché mortel, mais représente aussi la tiédeur générale des catholiques. Surtout aujourd'hui, le catholique est devenu quelqu'un de tiède. Le catholique est devenu quelqu'un de paresseux, ce qu'on appelle l'ascédie. L'ascédie, c'est ça, c'est la paresse spirituelle. On veut même plus donner la peine de monter au Calvaire pour aller adorer notre Seigneur Jésus-Christ. On contemple un petit peu de loin, comme les Juifs. On ne bouge pas le petit doigt pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne signifie pas qu'il y ait eu une séparation d'essence, d'union épistatique, c'est-à-dire une séparation entre l'humanité et la divinité, entre Seigneur Jésus-Christ, mais un support et une consolation, car la foi nous enseigne, encore une fois, que bien que l'âme du Christ soit séparée de son corps après sa mort, cependant la divinité demeurait hypostatiquement unie à son corps à son âme et à son corps. Un mystère invraisemblable, c'est certainement un des plus grands mystères dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment notre Seigneur Jésus-Christ pouvait-il souffrir les affres de la passion et garder la vision béatifique? Et pourtant, la foi nous indique que même sur la croix, même dans les affres épouvantables de la passion, notre Seigneur Jésus-Christ gardait la vision béatifique parce qu'il y avait toujours la divinité en sa personne. Sa personne était toujours l'union d'une double nature, nature humaine, nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu aussi sur la croix, même si cette divinité ne peut pas mourir. Seule l'humanité va mourir, pour bien montrer que cette divinité ne peut pas mourir, la divinité va rester unie au corps et à l'âme du Christ, même après sa mort. Le Christ se trouva comme abandonné, car la divinité retenait son secours, pour qu'il souffrît encore davantage, prolongeant sa vie, pour une plus grande endurance, augmentant ses peines quand il se vit, malgré l'union avec la divinité, souffrir une si atroce indignité. Notre Seigneur Jésus-Christ cache en quelque sorte sa divinité pendant la Passion. Elle va réapparaître glorieusement pendant la résurrection, mais pendant la Passion, elle se cache. Ici est signifiée, disent les pères, la malignité avec laquelle les Juifs et tous les pécheurs exhibaient face la malignité avec laquelle les Juifs et tous les pécheurs exhibaient face au Christ. Une faute de français. Ici est signifiée la malignité avec laquelle les Juifs et tous les pécheurs que les Juifs et tous les pécheurs exhibaient face au Christ. Je vous donne un petit peu ça. Je pense qu'il y a une phrase en français qui n'est pas très claire là. Je pense que la phrase en français, il faudrait la traduire ainsi. Ici, elle signifie la malignité que les Juifs et tous les pécheurs exhibaient face au Christ. En général, quand il y a des fautes comme ça, c'est ma faute, hein, c'est moi qui suis responsable puisque j'ai traduit une partie de ces textes à partir de l'anglais, entre autres sur les textes que j'ai trouvés dans Cornelius et Alpide. J'avais les textes en anglais. Je ne suis pas assez doué en latin pour traduire directement le latin de Cornelius et Lapide, qui n'est pas facile du tout. Donc les Juifs étaient comme du vinaigre, une dégénérescence de leur père, du vin, des patriarches et des prophètes, le cœur rempli d'iniquité comme un vase plein de vinaigre, plein de fraude, comme une éponge avec ses courbes et ses trous pour se cacher. Donc on retrouve là, encore une fois, certaines des images utilisées par les pères avec des mots un peu différents, mais on a déjà vu ça juste au sommet de la page 29. Je rappelle ce texte parallèle. Les Juifs, c'est le texte de Saint-Rémy, les Juifs eux-mêmes étaient ce vinaigre, eux qui étaient comme un vin dégénéré des patriarches et des prophètes, qui avaient des cœurs creusés par la fraude comme l'est une éponge par les cavités profondes et tortueuses qu'elle renferme. Eh bien, mon âme est aussi une cavité profonde et tortueuse lorsqu'elle vit dans le péché mortel. Alors ce roseau, nous disent les pères, était utilisé pour nettoyer les lépreux, nettoyer le corps, la peau des lépreux. On raclait la peau des lépreux, qui était incrustée de saleté, on raclait cette peau avec un roseau. Avec l'offrande pour le péché, l'aspersion de l'eau de purification qui représentait donc le sang du Christ avec son pouvoir de purification, de rafraîchissement et de force, nettoyant la poitrine car elle signifiait l'humilité du Christ par laquelle nous sommes purifiés. Donc les pères insistent aussi en disant que le Christ est mort à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, l'heure à laquelle Adam a péché selon la tradition. Donc Adam aurait commis le péché originel à 3 heures de l'après-midi, précisément pour expier son péché. Donc le Christ meurt à la même heure pour expier le péché du premier Adam. C'est aussi l'heure à laquelle l'agneau pascal était immolé et l'heure du sacrifice quotidien pour les Juifs. La 9e heure, 3 heures de l'après-midi, est donc l'heure de la prière pour le chrétien. Vous voyez, tous ces détails sont des détails qui doivent remuer notre âme au plus profond d'elle-même, pour que nous puissions justement vraiment suivre notre Seigneur Jésus-Christ. En méditant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, bien on peut changer complètement ses pensées et remettre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de tout ce que nous faisons. N'oublions pas qu'on le voit très bien dans la passion, que notre Seigneur Jésus-Christ va subir la passion dans chacun de ses sens. Dans chaque partie de son corps, il n'y a pas une seule partie de son corps qui ne va pas être atteinte par les blessures de la passion. Donc notre Seigneur Jésus-Christ subit cette passion partout, justement, pour rattraper tout ce que nous faisons avec notre corps. Nous offensons le bon Dieu avec nos mains, nous offensons le bon Dieu avec nos pieds, nous offensons le bon Dieu avec nos cœurs, nous offensons le bon Dieu avec notre intelligence. Et donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va purifier ses mains et ses pieds, les péchés que nous commettons avec les mains et les pieds par la crucifixion des mains, crucifixion des pieds, il va purifier notre intelligence par la couronne d'épines, il va purifier nos affections désordonnées par le percement de la lance dans son cœur, etc. Alors, avançons dans la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On tente de commencer les versets 51 à 56. Page 30. Voici que le voile du temple se déchira en deux. Et depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Et sortant de leur tombeau après ces résurrections, ils vinrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de personnes. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Il y avait là aussi, à quelque distance, des femmes nombreuses qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et parmi elles, c'était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alors commençons un petit peu à expliquer ces détails de la passion. Voyons d'abord le sens que les pères donnent à ce voile du temple qui est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et ce voile qui se déchire, ce voile, c'était le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple. Et bien ce voile qui se déchire représente la fin de l'Ancien Testament, si vous voulez, et l'arrivée d'une autre religion, en quelque sorte, qui est le complément de la religion ancienne, la religion juive, qui, à partir du déchirement du voile, devient mortifère. On ne peut plus, aujourd'hui, se sanctifier et vénérer notre Seigneur Jésus-Christ, adorer notre Seigneur Jésus-Christ, avec les prières de la religion juive, parce que cette religion est une religion qui est devenue caduque. Donc seuls les gens qui renient notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui nient l'arrivée dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, vont utiliser ces prières. Donc il serait tout à fait anormal qu'un catholique ne participe d'une façon ou d'une autre à des prières juives, justement parce que nous savons, nous, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Au moment où le Sauveur expira, disent les Pères, page 30, ce voile extérieur fut déchiré de haut en bas pour signifier que les mystères qui avaient été cachés selon les desseins de la sagesse de Dieu depuis le commencement du monde jusqu'à l'avènement du Sauveur allaient être révélés d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc le voile qui se déchire, c'est la lumière de l'Ancien Testament qui maintenant est sanctifiée et renouvelée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa résurrection qui va bientôt arriver. Et donc cette lumière va maintenant jaillir sur le monde et donc le rideau qui maintenait le monde en quelque sorte, qui empêchait la lumière de pénétrer dans le monde, ce rideau est ouvert et déchiré pour bien montrer que la lumière divine va maintenant illuminer le monde entier et que les apôtres vont être envoyés par notre Seigneur pour prêcher, baptiser, sanctifier et sauver les âmes. Mais lorsque viendra l'état parfait, alors le second voile sera également déchiré, pour que nous puissions voir ce qui est caché à l'intérieur, c'est-à-dire l'arche véritable du Testament et les chérubins, les autres merveilles du ciel dans leur propre nature. Le voile du temple se déchire parce que dès ce moment, le peuple se divise en deux parties, et que la gloire de ce voile disparaît avec l'ange qui le couvrait de sa protection. Il y a ceux qui restent d'un côté du voile et ceux qui passent de l'autre côté du voile. Ceux qui restent d'un côté du voile sont ceux qui sont encore dans l'Ancien Testament, donc qui attendent toujours la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà venu, mais qui refuse. Et puis il y a ceux qui sont de l'autre côté du voile, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui le suivent dans sa résurrection. Les peuples juifs, n'ayant pas reconnu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ayant pas reconnu la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, restent en arrière actuellement et sont incapables de voir la lumière de l'Évangile. Et donc ils restent dans l'obscurité. La terre tremble, disent les pères, parce qu'elle était incapable de recevoir ce mort. Les pierres se fendent, parce que le Verbe de Dieu avait pénétré et forcé tout ce qui était capable de résistance. Les tombeaux furent ouverts, car les portes des cachots et de la mort furent brisées. Et quoique leurs tombeaux fussent ouverts, ils ne ressuscitèrent qu'après la résurrection du Sauveur, afin qu'il fût le premier-né de la résurrection d'entre les morts. Nous devons donc croire, à n'en pouvoir douter, qu'ils ressuscitèrent pour prendre part à la résurrection du Sauveur et qu'ils montèrent avec lui au ciel le jour de son ascension. Alors, qui sont ces saints qui ont ressuscité à ce moment-là? Beaucoup de corps de saints s'étaient endormis, ressuscités. Il n'y a pas de nom donné dans l'Évangile. Une tradition dit que parmi ces saints qui ont ressuscité, il y aurait eu Saint Joseph. C'est possible. On ne sait pas. C'est pas certain. Mais en tout cas, des patriarches ou des saints de l'Ancien Testament ont ressuscité à ce moment-là, et non seulement ont ressuscité, mais ont apparu à beaucoup de personnes. Et ces saints ne vont rester sur la terre que pendant une certaine période de temps, puisqu'ils vont, nous disent les pères, remonter avec notre Seigneur Jésus-Christ 42 jours plus tard, au moment de l'Ascension. Au moment de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Donc ces saints vont repartir avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme ils ont ressuscité 2 jours avant la résurrection, le jour du Vendredi Saint, 3 jours avant la résurrection, donc ils vont rester, assister en quelque sorte à toutes les prédications de notre Seigneur Jésus-Christ, entre la résurrection jusqu'au jour de l'Ascension, et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va remonter au ciel, 40 jours après Pâques, ils vont monter avec lui, c'est ce que disent les pères. Tous les jours, ces grands prodiges se renouvellent aussi sous nos yeux. Car tous les jours, le voile du temple se déchire devant les saints pour leur révéler les secrets mystérieux qu'ils renferment. La terre, c'est-à-dire toute chair, est ébranlée en entendant la parole nouvelle. Et nouveau mystère que contient le Nouveau Testament, les rochers se fendent parce qu'ils sont la figure des prophètes. Vous nous laissez voir à découvert les mystères qui s'y trouvent cachés. On dit aussi que le rideau qui se déchire, c'est aussi le symbole de notre foi en la présence réelle pendant la Sainte Messe. Le rideau se déchire et notre Seigneur Jésus-Christ va vraiment apparaître maintenant sur l'autel. Donc c'est le symbole de sa résurrection d'entre les morts. On le croyait mort, il n'est pas mort, il est mort, mais il va ressusciter le jour de Pâques. Et donc la Sainte Messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la messe, de la croix, pardon, et étant le renouvellement non sanglant du sacrifice de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix le vendredi saint, eh bien la Sainte Messe va justement nous rappeler la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et elle devient la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par la présence réelle au moment où le prêtre prononce les paroles de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite littéralement en venant sur l'autel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc ces sépulcres des morts représentent aussi, nous disait le Père, les âmes pécheresses qui sont mortes aux yeux de Dieu. Mais lorsque ces âmes sont ressuscitées par la grâce de Dieu, leur cœur, leur corps, qui auparavant étaient des tombeaux, deviennent le corps des saints. Ces âmes paraissent sortir d'elles-mêmes, elles suivent celui qui est ressuscité, elles marchent avec lui dans une sainte nouveauté de vie, et ceux qui sont dignes de la vie du ciel entrent dans la cité sainte, chacun en son temps, et ils apparaissent aux yeux d'un grand nombre qui sont témoins de leurs bonnes œuvres. Donc ces saints qui ressuscitent à ce moment-là, et qui vont apparaître, dit le texte sacré, qui vont apparaître à beaucoup de personnes dans la ville de Jérusalem, représentent les catholiques qui se convertissent, ou les païens qui se convertissent. Les catholiques qui étaient faibles, qui étaient tièdes, qui deviennent vibrants de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils apparaissent comme des gens complètement transformés, ils vont prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont tous ces saints qui sont convertis, et qu'on connaissait comme des pécheurs, qui se convertissent d'un seul coup. C'est saint Augustin qui se convertit, c'est sainte Marie-Madeleine qui se convertit, c'est saint Ignace de Loyola qui se convertit, c'est saint François qui se convertit, et ils vont prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont comme ces saints qui ont ressuscité d'entre les morts et qui apparaissent dans la ville de Jérusalem à beaucoup de personnes. Alors, le centurion, nous dit le texte sacré, va dire, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il va se convertir. C'est saint Longin. Celui qui va percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de sa lance. Le centurion est la figure, nous disent les pères, de la foi de l'Église. Lui qui, aussitôt que le voile qui couvrait les mystères célestes est déchiré par la mort du Seigneur, le proclame un homme vraiment juste et le vrai Fils de Dieu, alors que la synagogue garde un lâche et honteux silence. Donc un païen va reconnaître vraiment cet homme était le Fils de Dieu, alors que les Juifs, enfermés dans leur cécité spirituelle, ne vont pas vouloir reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Donc que toute créature terrestre tremble d'effroi à l'exemple du centurion devant le simple supplice de son Rédempteur. Que les rochers des âmes infidèles se brisent, que ceux qui étaient comme accablés sous le poids des tombeaux de la mortalité se hâtent d'en sortir en renversant tous les obstacles qui les arrêtent, qui se montrent aussi dans la cité sainte, c'est-à-dire dans l'église de Dieu, comme preuve de la résurrection future, et qu'on voit dès maintenant s'accomplir dans les cœurs ce qui, d'après la foi chrétienne, doit un jour s'accomplir dans les corps. Donc cette résurrection des saints qui vont apparaître dans la ville représente notre propre résurrection. Nous aussi, nous devons ressusciter d'entre les morts, changer de vie complètement pour vraiment apparaître comme des hommes nouveaux devant le monde, dans le monde moderne. Voilà ce qu'il nous faut faire. Alors il y a beaucoup de choses à méditer, vous voyez. Cette conversion de ces saints, cette résurrection de ces saints représente notre propre conversion. Est-ce que je suis converti? Et attention, une fois qu'ils sortent du tombeau, ces saints qui sortent du tombeau le vendredi saint, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la ville, ils apparaissent à beaucoup de personnes. Il faut bien leur montrer, leur faire comprendre que quand je suis ressuscité d'entre les morts, quand j'ai fait une bonne confession, je me suis converti, je change de vie. Et ce changement de vie est un changement public. C'est pas un changement privé, c'est peut-être un changement public, tout le monde doit pouvoir le voir. Donc ils doivent apparaître à beaucoup de personnes, ça veut dire qu'ils doivent passer dans le monde moderne et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Voilà mes bien chers frères, je vous conseille encore une fois dans tous ces textes, ils sont tellement importants, la passion de notre Seigneur, c'est la partie la plus importante des évangiles, relisez ces textes, relisez au moins le texte de le texte du polycopier pour vous incorporer à cette doctrine qui est tellement belle. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.